franceinter.fr.
Et la consommation de cannabis avant 17 ans qui réduit de moitié les chances de faire des études secondaires. Résultat important à la une de la science aujourd'hui.
Ben, mon rythme, c'est à peu près tous les jours. À peu près tous les jours.
À peu près tous les jours aussi.
De fumer un joint tous les jours, vous trouvez ça normal?
Pour certaines personnes, c'est pas normal ça. Pour certaines personnes, ils se disent ouais, c'est trop et tout. Mais ouais, tout dépend des personnes, tout dépend de ce qu'ils font dans leur vie, le boulot et tout ça.
Bonjour Maria Melchior.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM et vous avez coordonné cette étude publiée aujourd'hui sur la cohorte Tempo. Plus de 1100 jeunes que vous suivez ainsi que leurs familles donc depuis maintenant 1991. Et donc ce résultat choc, les chances de faire des études secondaires lorsque l'on commence à fumer avant 17 ans sont réduites de 60%. C'est absolument énorme comme résultat.
Oui, tout à fait. Enfin, on sait de toute façon que le cannabis a des effets sur les fonctions exécutives, sur la concentration, la mémoire. Mais là, l'intérêt de cette étude, c'est de montrer l'impact de ces modifications cérébrales sur le devenir scolaire des jeunes. Et en plus, avec les données de la cohorte Tempo, nous avons eu la possibilité de prendre en compte les difficultés psychologiques et scolaires des jeunes dans l'enfance et l'adolescence avant le moment où ils ont pu commencer à consommer du cannabis, et aussi les caractéristiques de leur famille, puisque leurs parents participent aussi à une grande étude épidémiologique.
Justement, Maria Melchior, avant de parler plus des résultats, à quoi consiste un travail de cohorte, comme vous l'avez fait ?
Donc, dans une étude comme celle-ci, on a sélectionné des personnes qui ont accepté de participer à une étude sur le long cours. Donc, on leur a envoyé plusieurs fois des questionnaires et au fur et à mesure, on étudie l'évolution de leur état de santé.
Et quel est l'intérêt de pouvoir le faire sur des temps longs comme cela ?
Alors, une étude comme celle-ci, l'intérêt, c'est de pouvoir mesurer en particulier les difficultés psychologiques, les difficultés scolaires des enfants et aussi le contexte familial bien avant la consommation de cannabis et la fin des études pour être certain que les problèmes rencontrés par les jeunes n'influencent pas la manière dont ils rapportent
leur situation
intérieure.
Pour éviter les biais, donc, pour cette étude. Ce sont des questionnaires que vous leur envoyez, donc, tout au long de ces années?
En l'occurrence, oui. Des questionnaires par, soit papier, soit par Internet. De plus en plus, on a aussi fait des entretiens téléphoniques.
Alors, justement, concernant les biais, est-ce que vos données vous permettent vraiment de dire si c'est la substance, cannabis, ses effets ou le contexte dans lequel on la fume qui influe sur les résultats scolaires ?
Alors là, avec les résultats, les données que nous avions, nous avons pu vraiment rendre les jeunes complètement identiques, si on peut dire, en tout cas sur le plan statistique, en termes de environnement familial, difficultés précoces, sauf pour le moment où ils ont consommé ou non du cannabis. Il y a quand même 40% de jeunes dans l'étude qui n'ont jamais consommé de cannabis.
Est-ce que ça veut dire que c'est la substance ?
Oui, c'est ce qu'on peut penser, c'est que, en tout cas, la substance agit sur le devenir scolaire des jeunes. Après, les mécanismes sont certainement complexes, ils sont peut-être biologiques, mais aussi comportementaux. Le fait de fumer du cannabis a des effets sur la motivation des jeunes, donc évidemment, ne renforce pas leur adhésion à l'école. Voilà.
Vous dites 40% ne fumez pas de cannabis, ça veut dire que sur l'ensemble de la cohorte, 60% des jeunes interrogés fument du cannabis ?
C'est-à-dire avait déjà essayé de fumer du cannabis, ce qui est comparable aux données nationales en France. À 17 ans, un jeune sur deux a déjà fumé du cannabis. Et c'est vrai pour un jeune sur 10 au collège déjà.
Pourquoi cet âge de 17 ans, cet âge limite, quand les jeunes commencent après 17 ans, vous voyez plus d'effet sur les résultats ?
Alors, on a pris comme âge de consommation précoce 17 ans, d'abord parce que ça correspond à un âge qui a du sens en termes scolaires, c'est-à-dire que donc c'est avant la fin du lycée et le baccalauréat. Et puis, on sait par des recherches en neurosciences que plus la consommation est précoce, plus les effets sur le cerveau peuvent être importants.
Vous avez des explications à ce résultat-là ?
Le fait que les effets soient plus importants. Oui, parce que le cerveau adolescent se développe jusqu'à l'âge de, le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans environ. Et donc la période de l'adolescence est une période de maturation et de développement des connexions neuronales particulièrement importantes. Et donc, peut-être que les consommations de produits psychoactifs, cannabis, mais aussi alcool ou d'autres produits, pourrait avoir des effets particulièrement marqués. C'est une période critique, si vous voulez.
Les études, justement, en neurosciences sont nombreuses aujourd'hui, qui montrent justement les effets délétères du cannabis sur le cerveau des adolescents. À peu près tout le monde est d'accord sur cette question-là aujourd'hui.
Oui, je pense que tout le monde est d'accord pour le cannabis, mais aussi l'alcool et d'autres produits. Ouais. Et on a également maintenant des études plus particulièrement sur le cannabis qui montrent qu'une consommation chronique au cours de la vie donc au-delà de l'adolescence, a des effets également sur le quotient intellectuel et sur les capacités cognitives à long terme.
Alors, vous montrez dans l'étude une différence de résultats entre garçons et filles. Ça montre aussi un effet de contexte.
Oui, tout à fait. Les filles sont moins nombreuses à consommer du cannabis, mais celles qui le font, et en particulier à des âges très jeunes, font l'expérience de conséquences en termes de scolarité plus importantes. Alors, c'est peut-être pour des raisons biologiques. Il y a des études qui suggèrent que le métabolisme du cannabis, mais aussi d'autres produits psychoactifs, n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes, et les filles pourraient être particulièrement vulnérables aux effets négatifs. Mais aussi, comme elles sont plus nombreuses, elles sont peut-être plus mises à l'écart ou stigmatisées en cas de consommation, ce qui a des effets sur leur relation avec l'entourage et puis l'insertion scolaire aussi.
Est-ce que vous voyez des nuances dans les niveaux de consommation et dans les effets ?
Et vous les avez identifiés justement, ces niveaux de consommation ?
Oui, alors nous avons étudié sur un sous-échantillon de la cohorte Tempo le lien entre une consommation régulière, donc au moins 10 fois dans l'année, et le niveau scolaire plus tard, et on voit que plus le niveau de consommation est élevé, plus la probabilité de ne pas poursuivre d'études est augmentée.
Et finalement, quand on finit par ce résultat, 60% qui est gros, quel est le message de santé publique qu'on dévoile après ?
Le message principal, c'est que il faut prévenir les consommations de cannabis chez les adolescents. C'était déjà la conclusion de l'expertise collective de l'INSERM sur les conduites addictives chez les jeunes il y a 2 ans environ. Et après, il y a différentes méthodes de prévention. Il y a l'information, bien sûr, sur les risques à court terme, surtout. Les risques pour la concentration, la mémoire, la motivation. L'information des parents, bien sûr, et de l'entourage. Et aussi des interventions qui visent à améliorer les compétences psychosociales des jeunes, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des émotions, gestion des situations de conflit, estime de soi, parce que finalement, c'est uniquement ces interventions qui ont vraiment des effets bénéfiques, préventifs à long terme.
Mais ça, c'est le rôle aussi de l'épidémiologiste de porter ce type de message de prévention, ou au fond, c'est une autre partie, c'est-à-dire que vous faites le travail de recherche, et puis ensuite, vous livrez ces résultats, et d'autres s'occupent de mettre en garde contre les dangers de la substance, ou pas ? Comment ça fonctionne ?
Alors, je peux pas dire que cette conclusion soit basée sur mes propres travaux. C'est les travaux d'autres personnes que j'ai lues et intégrées à mes recherches. Mais je pense que si on veut que l'épidémiologie soit utile à la santé publique, il faut aussi réfléchir.
Porter des messages.
Oui, à la manière dont les résultats peuvent ensuite être utilisés dans l'action publique.
Vous travaillez là, sur le cerveau des adolescents qui est en formation jusqu'à 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques résultats sur la consommation chronique chez l'adulte ? Est-ce qu'on a une baisse aussi des capacités cognitives ?
Alors, il y a une grande étude néo-zélandaise publiée il y a plusieurs années qui montrait effectivement qu'une consommation régulière de cannabis qui dure dans le temps, alors, a d'abord des effets sur la santé respiratoire. Surtout quand le cannabis est mélangé avec du tabac, comme c'est le cas en France, mais aussi des effets sur la mémoire en particulier. Une perte de mémoire plus rapide que chez les personnes qui ne consomment pas.
Merci beaucoup, Maria Melchior. Donc, résultat important, puisque les chances de faire des études secondaires lorsque l'on consomme à fumer du cannabis avant 17 ans sont donc réduites de 60%. C'est ce qui ressort donc de cette étude en épidémiologie que vous avez réalisée pour l'INSERM avec la cohorte Tempo. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ici. Et Axel, à lundi.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, lire dans les dents des hommes anciens comme dans les cernes des arbres. Un groupe de chercheurs canadiens et français montre que le niveau d'exposition au soleil d'un individu au cours de sa vie peut se lire dans la composition de la dentine qui constitue par couches successives le corps minéral de la dent. Cette découverte importante va permettre aux paléoanthropologues de déterminer les conditions de vie de certains de nos ancêtres sapiens et néandertaliens et connaître ainsi le climat dans lequel ils vivaient mais également les migrations effectuées tout au long de leur vie. Encore une histoire de dents, cette fois-ci avec les femelles orang-outans qui peuvent allaiter un même petit pendant presque 9 ans, vous allez comprendre. Ce record absolu chez les mammifères n'a pas été facile à déterminer par les chercheurs car il est bien sûr impossible de suivre aussi longtemps des orang-outans sauvages qui passent le plus clair de leur temps dans la canopée. C'est donc en étudiant les dents de ces animaux que les scientifiques ont trouvé la preuve, et plus précisément en traquant les dépôts de barium contenus dans le lait maternel et qui marquent la croissance des dents des petits orang-outans. Selon les chercheurs, l'allaitement traitement deviendrait plus intermittent après 3 ou 4 ans. Et puis pour finir, le show est terminé pour les lions et pour les éléphants. Dans un communiqué relayé par la fondation 30 millions d'amis, la grande famille des cirques bouglignonnes abandonne définitivement les spectacles mettant en scène des animaux. Nos animaux commencent à vieillir, soit nous prenions des jeunes et on repartait pour 10 ou 20 ans, soit nous trouvions une solution pour faire autre chose, a confié André Bouglione. Il ajoute également, la plupart des cirques ne devraient pas avoir d'animaux car ils les traitent mal. Un pas de plus dans la prise de conscience collective du bien-être animal.